Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh!
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Figaro Radio.
Le Buzz TV.
Nicolas Voller et Damien Canivez.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV de TV Magazine. Et on démarre très fort aujourd'hui, ça va Damien ?
Ah super, le week-end je suis très content d'être là. Ah super.
Ah bah évidemment, je vous comprends, parce qu'aujourd'hui on reçoit une femme, une comédienne qui a formé pendant 25 ans une famille exceptionnelle, dite formidable également avec Bernard Lecoq sur TF1. Elle vous a aussi fait rêver en dansant avec une robe rouge sur une bouche d'aération, souvenez-vous de ça. Mais cette fois-ci, elle s'apprête à jouer à nouveau le rôle d'une mère dans un contexte un peu plus chaotique. Bonjour Annie Dupéré.
Bonjour.
Merci d'être
bonjour
avec nous. On est ravis de vous avoir. Mort d'un berger, c'est le titre de la fiction que oui. France 3 diffusera en prime time à 21h10. Un téléfilm dans lequel vous endossez le rôle de Marceline voilà. Dalmas, une femme qui va mener
un prénom qui n'est pas revenu à la mode encore.
Non, pas encore. Pas encore.
Bonjour.
Marceline.
Marceline, voilà, ça qualifie un petit peu. Donc, elle va mener une enquête, sa propre enquête, pour enquêter sur découvrir qui est l'assassin de son fils. Moi, je me demandais, quand on va regarder Mort d'un berger, dans quelle catégorie on va classer cette fiction, à quoi il faut s'attendre ? Parce qu'il y a à la fois du thriller, parce qu'il y a l'enquête, et il y a aussi tout le côté drame familial.
Il y a le côté drame, c'est un film
c'est
un film, quoi.
c'est ça.
Tout simplement, c'est un film avec en plus un environnement magnifique, et puis une histoire, à la fois une histoire de famille, une histoire de secret, d'ailleurs, de secret de famille, là. Et puis une enquête, parce que je crois que les gens aiment bien ça, ça fait un fil rouge, comme ça, à suivre. C'était un rôle difficile, je dois dire, parce que le challenge était de faire une femme déjà qui est veuve, qui en plus perd son fils, et qui est très dure, et une femme désespérée qui ne montre pas ses sentiments, seulement si on ne les voit pas, c'est chiant. Donc
il faut
faire
un peu.
Femme qui ne montre pas ses sentiments, mais il faut les voir quand même. Bon, alors.
Et le fait qu'elle enquête, alors qu'elle est une civile, elle n'est ni policière, ni rien du tout, ça vous intéressait aussi ce côté ?
Oui, c'est pas mal.
C'est souvent les flics qui mènent des enquêtes.
Là, effectivement, elle mène sa propre enquête par rapport à ce qu'elle devine ou sent et découvre. Aussi après, mais c'est très... Et la fin est très chaleureuse et très belle, je trouve. C'est un personnage qui semblait dur au départ et qui, à la fin, on comprend qu'elle est d'une générosité et d'une abnégation formidable.
Alors, on va en parler, évidemment, de ce personnage et de cette fiction que vous pourrez voir sur France 3. Ce sera après les news médias de Damien Canivez. Damien, on démarre ces news médias avec le domicile d'Anne-Sophie Lapix, la présentatrice de France 2, qui a été pris pour cible par des cambrioleurs.
Oui, absolument. La journaliste de France 2 a été victime d'une tentative de cambriolage dans la nuit de samedi à dimanche. Alors, selon BFM TV, les faits se seraient déroulés aux alentours de 3h50 du matin. Plusieurs individus ont escaladé la grille de son hôtel particulier situé dans le 16e arrondissement avant de tenter de forcer la porte. Puis, ils ont été ensuite surpris par le fils et ont décidé de prendre la fuite. Quelques minutes plus tard, 5 suspects à bord d'un véhicule volé ont été interpellés par les forces de l'ordre, par la brigade anticriminalité, devant les jardins du Trocadéro dans la capitale. Ouais. Alors depuis la fin de l'année dernière, de nombreuses célébrités ont été victimes de ce que l'on appelle un homejacking, c'est-à-dire un cambriolage ultra-violent, que ce soit Vita, Gianluigi Donnarumma, aussi le gardien
du PSG,
Bruno Guillon ou encore même Sylvie Tellier.
Ça ne vous est pas arrivé, ça, Annie ? Vous croisez les doigts ? Ça se répète ?
Je croise les doigts, je n'ai absolument aucun objet de valeur.
Oui.
Aucun, et je ne porte que du toc. Donc c'est.
Et en général, ils ciblent les personnes célèbres en pensant que.
En pensant que
ces gens,
voilà. Et là, alors là.
D'accord, donc rien du tout. Ça ne sert à rien d'aller vous cambrioler.
Et vous n'avez jamais été victime d'agression dans la rue parce que vous êtes quelqu'un de célèbre et que vous pouvez avoir un fan complètement déséquilibré qui vous croise.
J'ai une notoriété douce. comme les drogues du même nom. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, mais c'est pas gênant, etc. J'ai dit, écoute, les gens sont assez respectueux avec moi et sympas. Ouais. J'ai dit, t'es dans ton quartier, tu y habites depuis longtemps. Les commerçants t'appellent par ton prénom, les voisins, etc. Ben moi, c'est toute la France.
Ouais, ça, c'est génial.
Voilà, mais, c'est du même ordre, quoi. C'est, ah tiens, on est content de vous voir, tiens. Ah ben, alors là, hier, c'est bien, j'ai eu 4 personnes qui m'ont dit, passez à la télé, on va pas le louper, hein. C'est super.
Et les selfies, quand vous en demandez, vous faites tout
oui,
avec plaisir.
Oui.
On continue ces news médias, Damien, avec Cyril Lignac, hein, le chef qui s'est confié à cœur ouvert sur TF1.
Oui, Audrey Crespo-Mara a interrogé le chef pâtissier dans le portrait de la semaine du magazine 7 à 8 sur TF1. C'était ce dimanche 21 janvier sur la première chaîne. Alors, l'occasion pour lui de revenir sur ses débuts compliqués dans sa carrière. À l'âge de 25 ans, il débarque à la télévision et raconte que ce métier dans lequel il débarquait n'a pas été forcément facile. Il raconte que la profession ne voyait pas forcément d'un bon œil le fait qu'un jeune chef de 25 ans arrive sur le petit écran.
Appel de la jalousie.
Voilà, exactement. On peut le résumer ainsi, Nicolas. Voilà. Je savais déjà que tout le monde attendait ma chute, j'avais toute la profession à dos, tous les journalistes à dos, voilà la façon dont il en parle. Finalement, il obtiendra sa première étoile en 2012 et finira par devenir le chef apprécié que l'on connaît aujourd'hui et qui fait toujours les belles heures du groupe M6.
Et quel souvenir vous gardez de vos débuts, Annie? Vous avez commencé jeune aussi hein, dans ce métier. C'était compliqué au début.
Mes 60 ans de carrière exactement. Premier contrat à 16 ans.
Incroyable. Fou, hein. 16 ans. Vous n'étiez même pas majeur.
Non. Et
il y a eu des difficultés au début ou pas? Il y a eu beaucoup de choses.
Non, mais moi j'ai eu une chance incroyable. Je suis rentrée effectivement. J'avais eu un contrat même un petit peu avant pour un festival. Je rentre au conservatoire à 17 ans pile, hein, et mon prof d'ensemble me propose un rôle principal j'étais sur scène 2 mois après.
D'accord. Donc c'est rentré au conservatoire, quoi.
C'est voilà, ça a été, j'ai eu une chance absolument incroyable.
Et est-ce qu'il y a des moments de creux, comme on dit, dans une carrière où le téléphone sonne moins, on fait moins
appel à vous? Je m'y attendais. Il y a eu un trou d'un an. Après, un éléphant, ça trompe.
Pour quelle raison, selon vous?
Parce que c'est comme ça. Parce que souvent,
le film, il vous a révélé
au cinéma. Un énorme succès, révélé, j'en avais fait plein avant, mais bon.
Mais dans celui-là, vous étiez tellement marquante que...
Alors, il y avait deux choses. C'était un énorme succès, donc les gens supposaient que vous alliez être couvert de contrat, alors que non. Il ne plaît pas. Parce que, bon, donc, c'est marrant parce que je m'en étais doutée. Je m'étais dit, ça va être dur après. Et de deux... C'est un rôle qui n'ouvrait l'imagination de rien. C'est une femme, à la limite, on se demande si elle existait, quoi.
Ouais, c'est ça. Ce genre, je fantasme beaucoup dans le film.
Truc à part, comme ça, qui n'ouvre pas spécialement l'imagination de trucs pour tel rôle, voilà.
Oui, c'est vrai, c'était un fantasme. Il n'y a pas eu énormément de répliques, en fait, dans le film.
Non, c'était...
Mais il a marqué les gens, vous voyez. J'en ai même parlé encore au début de La danse sur la bouche d'aération.
C'est le doudou des Français.
Bah, absolument.
Mais on parle une fois par semaine, Nicolas, quand même, de ce rôle.
On termine, Damien, avec le chiffre du jour. C'est le 6 aujourd'hui.
Oui, c'est le nombre d'années durant lesquelles l'humoriste Inès Reg aura partagé sa vie avec Kevin Debonne. Alors, elle a annoncé son divorce ce week-end sur ses réseaux sociaux. Et cette nouvelle, elle tombe à peu près au même moment que l'officialisation de sa participation à Danse avec les Stars. TF1 a récemment confirmé qu'Inès Reg...
Ça, c'est intéressant, mais le divorce, on t'en fout, quand même.
Ah oui, bah, en tout cas...
Elle l'a annoncé.
Son couple a été très médiatisé parce que c'est à elle qu'on doit cette fameuse réplique « Kevin, mets-moi des paillettes dans ma vie ».
Elle avait fait un sketch qu'il avait réveillé avec son mari.
C'est avec son mari, voilà. C'est pour ça qu'elle en a parlé publiquement. Et elle participera donc à Danse avec les Stars. TF1 l'a confirmé. Elle rejoint donc un casting qui est déjà composé de Christina Cordula, notamment, et Cœur de Pirate, qui vont toutes les deux aussi fouler le parquet de l'émission de TF1.
Vous l'avez jamais proposé, ça?
Non, mais j'ai fait Masked Singer.
Masked Singer, ça, c'est vrai.
Ça, c'était bien. Ouais. C'était bien.
C'était quoi, votre costume,
c'était drôle. Il n'était pas bien. Il n'était pas pratique du tout. C'est un phénix.
Ouais, oui.
Et j'avais un corset pour tenir deux grandes ailes qui emmerdaient parce qu'on fallait passer de profil. On se bustait dans tout. Et qui m'étouffait vraiment, carrément. Mais je me suis beaucoup amusée. Je dis du bien de cette émission. Il y a des amis, vous savez, un peu snobs qui m'ont dit « Ah oui, t'as fait ce truc ». J'ai dit « Attends, moi qui aime l'artisanat de ce métier et les gens qui y travaillent, je n'ai jamais vu autant de gens employés sur une émission. 12 danseurs à demeure, des costumes différents à chaque fois, couturiers, dessinateurs, formidable.
Et les répétiteurs pour la
mais
chanson
formidable,
aussi,
répétiteurs pour la ouais, chanson, ouais. Chorégraphe, écoute, c'est extraordinaire. Une télé qui emploie autant d'artisans que ça.
Ouais, c'est vrai.
Moi, c'est ça que j'adore. Je veux dire, j'aime bien les gens qui travaillent dans ce métier, qui sont les petites mains comme ça.
Et la danse, alors, vous pourriez ou pas? Ou danser avec les stars?
Je sais pas, je vais attendre d'avoir 80.
Ouais, c'est bien.
Parce que
ouais,
là, ça m'amuserait beaucoup.
Ouais, ce serait pas mal.
C'est un vrai défi.
C'est un vrai challenge, là, pour
vous
le coup.
Vous êtes encore souple ou pas? Vous êtes capable de faire le grand écart?
Oh, oui, 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 c'est ça le...
France 3 diffuse en prime time à 21h10, Mort d'un berger. Vous glissez dans la peau d'une mère, hein, dont on a parlé, oui. Dont le fils est mort alors qu'il s'apprêtait à se marier. Comment la maman que vous interprétez va réagir après ça? Et sa première réaction, qu'est-ce qu'elle va être, Annie, au-delà
à la première de la réaction, effectivement, quand les policiers viennent lui annoncer qu'elle est... On a essayé plusieurs choses en tournage, c'est pas facile à faire. Et en fait, sa première réaction est d'une froideur. Elle dit, je veux le voir. Et on dit, mais non, mais c'est pas, ça va vous faire du mal quand même. D'autant qu'il est atrocement blessé à la gorge, etc. Je veux le voir, c'est mon fils. Je veux dire, c'est une femme comme ça. Elle affronte les choses, elle voit les choses en face. Elle est déjà veuve, elle perd son fils unique. Je veux dire, c'est une femme dont la vie est apparemment détruite, sauf qu'elle veut, elle veut savoir. À partir du moment où il y a un doute sur le fait que, est-ce que c'est un loup? Mais on crie très fort et on explique dans le film que le loup n'attaque pas l'homme. Donc
ouais,
ça peut être un chien d'attaque.
Oui, ouais, absolument.
Voilà. Et puis, bon, il y a un voisin, justement. Bon, alors, elle va chercher à... D'abord, elle croit que c'est un loup, vraiment. Et puis elle commence à chercher. Elle mène sa propre enquête parallèlement aux deux enquêteurs
évidemment.
Non, j'en dis pas trop.
Pour donner l'envie, mais
c'est un personnage qui commence de manière très dure et on s'aperçoit à la fin effectivement qu'elle est, elle donnerait sa vie pour sa descendance et pour la vérité et tout ça, et que c'est une femme très entière, mais infiniment généreuse. Quoi.
Mais on se rend compte qu'elle est capable même d'aller très loin pour trouver l'assassin de son enfant.
Ah oui, oui.
Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question jusqu'où vous seriez capable d'aller si jamais on s'en prenait à vos enfants?
Je ne me pose absolument aucune question, parce qu'il est hors de question que ça arrive.
Jamais vous êtes demandé...
Moi, après le drame qui a marqué mon enfance, oui. De trouver mes parents morts, je crois que on m'a dit après, mais t'as dû avoir peur pour les enfants. J'ai dit au contraire. J'ai dit, ça va, j'ai tout eu au début. Il ne leur arrivera rien. J'ai eu ce sentiment comme ça, et donc j'ai pas été une mère très angoissée finalement. J'étais, alors, protection ou pas?
Oui.
Je sais pas. On peut, la question se pose, hein.
Oui, bien sûr.
Moi j'ai
oui,
eu
oui.
tellement de signes de quelque part d'avertissement, de choses comme ça, de hasard qui tombait bien, qu'il y a un moment on se dit il y a des anges, hein. Donc je n'ai pas été angoissée pour mes enfants et je me garde bien d'y penser.
Alors, quel type de maman vous êtes,
Annie? Légère.
Très protectrice, légère. Maman copine,
légère.
Plutôt, avec votre fils et votre
fille. C'est pas copine, c'est, comment dire, comme j'ai eu du mal à renouer avec la chaîne.
Ouais.
Moi, toute ma famille étant morte, avant, j'avais une terrible peur de renouer, j'appelais ça avec un humour noir, le merdier. Le merdier, c'est-à-dire le danger de perte, justement, tout ça et tout, voilà. Et Bernard Giraudot m'a, heureusement, merci Bernard, convaincu de faire des enfants. Et à ce moment-là, quand on n'a aucun souvenir de sa propre mère, de comment faire, on va inventer
mère,
quelque
ouais.
chose, on regarde les autres.
Oui.
Et je l'ai trouvée lourde, mais lourde en général.
C'est vrai.
Sur la tête de leur môme, à faire ceci, cela, ou alors les pousser dans un sens.
Ah, oui.
Trop présente, mais qu'est-ce qu'elles sont lourdes, les mères. Et moi, je voulais être une mère attentive et légère, c'est-à-dire les laisser faire, bien les regarder, être à l'affût, comme ma tante qui m'a élevée avait fait avec moi, à l'affût de leurs dons, de leurs envies.
Être à l'écoute.
T'as envie de faire quelque chose? Toutes les cartes en main. T'as envie de prendre des cours de ça? Tu les prends. Mais attention, c'est toi qui joues, et tu peux même gâcher le jeu.
Donc quand Sarah, votre fille, a dit qu'elle voulait faire comme vous, Vous l'avez encouragée.
Bah, je l'ai vue avant elle, quoi.
Oui, d'accord, vous saviez avant elle que...
J'ai vu un travail d'élève à 12 ans, ouais, où je me suis dit, oh là là, on ne va pas y couper.
Vous étiez il y a encore quelques semaines à l'affiche de la pièce Mes chers enfants, dans laquelle vous interprétiez justement, oui, une maman, ouais, qui, oui, s'adressait à ses enfants par lettre. Si aujourd'hui vous aviez une feuille blanche et un stylo, qu'est-ce que vous leur diriez à vos enfants?
Oh, bah, que je suis fière d'eux. Non, je suis très contente d'eux, très contente. Ils sont épatants. Ils font ce qu'ils aiment, ouais, ils le font avec passion. Voilà, c'est tout ce que ouais, j'attendais, en fait.
Quand je disais,
mère légère, qui les regarde, ouais, qui les pousse vers ce qu'ils aiment, mais sans trop les pousser, c'est leur responsabilité, c'est des enfants responsables.
Voilà. Et est-ce qu'il y a eu un changement, notamment après le décès de leur papa? Ça vous a plus rapproché? Vous avez senti un rôle plus important à prendre, Annie, à ce moment-là?
Non, c'est pour eux que ça a été très important, parce que Bernard, qui était un personnage vraiment pas facile, faut
oui,
le dire.
Oui, vous l'avez dit il n'y a pas très longtemps.
Ah là là, mon Dieu, ouais. Malheureusement, ce n'est pas moi qui lui ai fait comprendre qu'il devait être heureux dans la vie. c'est ouais, pas moi, c'est le cancer.
Ouais.
Voilà. J'ai une amie psychologue que vous connaissez certainement, qui s'appelle Catherine Dolto, oui, la fille, oui, de Françoise, qui m'a dit une magnifique phrase. Quand je lui elle connaissait mal notre histoire avec Bernard, et je lui ai résumé un peu cette chose que moi, j'ai espéré pendant 15 ans qu'ils comprennent enfin qu'on avait tout pour être heureux, au lieu de chercher toujours la bagarre, ce qui n'allait pas, machin. J'ai dit, c'était effrayant. J'ai dit, c'est pas moi qui lui ai appris, malheureusement, c'est le cancer. Ouais. Et elle m'a dit...
C'est trop tard, hélas. Oui.
C'est vrai qu'il y a des gens... Il leur faut un énorme coup de pied au cul pour se bouger l'âme. J'ai trouvé cette phrase magnifique.
Ouais,
un grand coup phrase. De pied quelque part pour se bouger l'âme. Et, ouais, et le cancer a été ce coup de pied qui l'a fait se transformer complètement, s'ouvrir et découvrir en fait qu'il l'avait dit lui-même, il était un con, quoi, avant. Mmh.
Et pas profiter, ouais, forcément de
mais
tout,
oui,
de ses
mais
enfants,
oui,
et de la,
oui,
vie.
Oui, oui, voilà, oui, oui. Et là, sur ce, mais ça a été très important pour mes enfants, parce que là, il y a eu un... Oui. Alors qu'il était un peu dur avec eux avant.
Il y a eu un rapprochement au moins à la fin, en tout cas.
Ah oui, un rapprochement formidable, formidable.
Alors, le combat pour sa famille s'en est un. Il y a un autre combat qui mérite vraiment, voilà, d'être mené, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes. Un acteur présumé innocent, on le rappelle, qui s'appelle Gérard Depardieu, est actuellement dans l'œil du cyclone. Et vous avez récemment déclaré à nos confrères belges de Télé-Ciné Revue que vous aviez été témoin d'excès de la part de Gérard Depardieu. Vous n'avez pas déclaré
pas
ça?
Du tout, absolument pas. Alors là, ils ont inventé. Non. Il y a d'ailleurs une trace sur YouTube que j'ai retrouvée dernièrement, uniquement parce que je cherchais une date.
Ah, oui,
je cherchais la date à laquelle j'avais joué la pièce de Bertrand Blier qui s'appelle Désolé pour la moquette.
Oui.
Et je suis retombée sur notre Ruquier, On n'est pas couché, oui, et où effectivement j'avais été. Alors à l'époque, il y a 10-12 ans, Gérard était sacré, je veux dire, c'était... Yes. Voilà. Et donc, j'avais dit, je ne sais plus quelle connerie il avait proférée, je ne sais pas, ouais, si c'était sur Poutine, sur donc, son frère
oui,
Poutine,
oui,
je ne sais
quelque
pas
chose
quoi.
De
il était en Russie.
Enfin,
oui,
pas un truc comme ça, où j'avais osé dire, Gérard Depardieu devrait vraiment fermer sa gueule.
Ah, oui.
Et on m'avait fondu dessus, parce que Depardieu était encore sacré, mais comment, mais pourquoi vous le haïssez? Je dis, je le hais pas. Mais il dit des bêtises grosses comme lui, ce petit a pété les plombs, quoi, ah ouais, et tout. Et voilà que Bertrand Blier, alors ça, ils s'en sont pas servis, par contre, on m'a ressorti ça, mais quand à on n'est pas couché, j'ai fait, ah non, vous n'allez pas revenir avec ça et tout, et Bertrand a dit carrément, on peut le voir d'ailleurs sur YouTube, il a dit carrément, non mais écoutez, on va arrêter d'ennuyer Annie avec ça, parce qu'elle a dit ce que tout le monde, tous ses amis pensent, y compris moi,
ouais.
Gérard, ferme ta gueule s'il te plaît.
Et qui dit des conneries.
Et c'est Bertrand Blier qui le disait, donc.
Mais les excès, mais, en l'occurrence, ça vous l'avez jamais
mais
vu,
non,
vous n'avez
mais
pas été
bien sûr
témoin,
que
vous.
Non, bien sûr, non, j'ai pas vu, puis on en fait un plat, quoi.
Vous pensez, comme Emmanuel Macron, que c'est une chasse à l'homme? Il a été défendu, hein, Gérard Depardieu. Par le président de la République, quand même, c'est pas rien.
Bah, il aurait pu, c'est pas le rôle du président de la République, quand même.
Bien sûr, mais il l'a fait, on lui a
mais
posé la question.
Non, je prends pas parti là-dessus, parce que ces mouvements extrémistes, tout à coup, où on va effectivement tuer quelqu'un comme ça. Non, l'ennui, ce qui me trouve le plus ennuyeux là-dedans, c'est que. On risque de tuer par la même occasion les films merveilleux qu'il a fait, quoi.
On en parlait que le groupe M6 ne diffusera pas les valseuses pour ses 50 ans. Voilà, à cause de ça, vous me disiez avant pourquoi,
dans ce cas-là, tout annuler. Pourquoi ? C'est comme il y a un moment, on a été sur Polanski, c'était l'horreur sur Terre, il y a des actrices qui ont quitté la salle des Césars parce qu'il était nommé, mais attends, il faut quand même différencier la part artistique et la part humaine.
Alors effectivement, vous différenciez l'homme de l'œuvre.
Bien sûr, parce que l'œuvre, c'est condamner du même coup les metteurs en scène, les scénaristes qui ont écrit pour faire des beaux films. Ouais. Je veux dire, pourquoi se passerait-on des sublimes chefs-d'œuvre de Polanski, quand même ?
Alors, le 11 janvier dernier, vous n'êtes pas sans savoir que Rachida Dati a été nommée ministre de la Culture. Vous qui êtes comédienne, est-ce que vous êtes heureuse qu'aujourd'hui, Rachida Dati se soit installée rue de Valois ?
No comment.
Vous n'avez pas d'avis forcément là-dessus ou vous n'avez pas envie de le partager ?
Non, j'ai pas d'avis, j'ai pas envie de le partager, d'ailleurs, surtout là.
Parce qu'il y a beaucoup de comédiennes qui se sont exprimées, notamment Anna Mouglalis aussi.
Non, mais moi, je me suis le moins possible. Je me suis déjà pas mal exprimée pendant une période difficile qu'on a vécue il n'y a pas longtemps. On va arrêter.
Mais vous êtes quand même une femme engagée. On se souvient de votre combat pour les Votirox, notamment. Voilà, vous en aviez parlé ici.
Ouais,
et notamment aussi lors de la dernière présidentielle, vous aviez appelé à voter Jean-Luc Mélenchon dans une tribune signée avec plusieurs personnalités, dont Blanche Gardin. Vous lanceriez le même aujourd'hui, Annie, ou pas ? Notamment après ce qui s'est passé en Israël et la position de la France insoumise.
Il faut dire que depuis tout ce merdier, si j'ose dire, énorme, ma télé fait beaucoup dodo.
Ah, c'est vrai, vous la regardez plus.
Donc, pour prendre des vacances.
J'échappe à beaucoup de choses. Je garde mes convictions, moi. Je crois que je ne fais pas encore partie d'une tribune où on m'a demandé de signer contre la loi migration. Voilà, quand c'est des sujets importants comme ça, je le fais, mais je ne regarde plus, franchement.
Mais vous regrettez cette prise de position pour Jean-Luc Mélenchon par rapport à tout ce qu'il est aujourd'hui, où vous dites juste, bon, on peut se tromper.
Je tranche à vous, je ne sais même pas ce qu'il a dit.
Il a refusé de condamner les attaques du Hamas en disant que c'était un groupe terroriste. Il a refusé de qualifier le Hamas de groupe terroriste.
Contre les enfants israéliens, notamment.
Mais tout ça, faut voir les choses quand même avec le recul. Tout ça, vous vous rendez compte quand même que tout ça, c'est toujours de la faute d'Hitler.
Ah oui, pour quelle raison vous dites ça ?
Eh bien, attendez. Si Hitler n'avait pas fait toutes ses horreurs et tué 6 millions de personnes, on n'aurait pas décrété de recréer l'État d'Israël, etc., et de chasser ces gens de leur pays qui habitaient leur pays plein de cailloux, pour tout à coup de faire cette ça vient de là, ça vient de ce fou. On subit encore les conséquences de ça. C'est fou. Alors c'est vrai que les Juifs ont été pourchassés beaucoup de tout temps.
Bien sûr.
Mais enfin, ils ont quand même réussi à vivre et à faire des choses magnifiques. S'en foutre le peuple palestinien dehors, quoi. Mais bon, alors c'est maintenant infernal, quoi. C'est infernal. On peut pas en sortir de ce truc.
On voulait aborder avec vous un sujet beaucoup plus léger, qui est une famille formidable. Vous avez interprété Catherine Beaumont pendant 25 ans quand même sur TF1. Est-ce que c'est possible, et là, je me fais le porte-parole de tous les téléspectateurs qui nous regardent, que cette série revienne un jour, ne serait-ce que pour un seul épisode événementiel ?
Non, je ne crois pas.
C'est impossible.
Non, je ne crois pas, parce que ça a été un miracle de... Vraiment un miracle, en plus, dans nos vies.
Ouais.
C'était une chance de la vie et du métier. Là, humainement et au prof... C'est pour ça que je pense que les gens, c'est même pas qu'ils aiment cette famille, c'est qu'il y a de l'amour. Je crois qu'il s'est passé quelque chose qui allait bien au-delà d'une série télé. Il y avait une reconnaissance humaine, comme ça, on a traité
de tous les sujets.
Il y a
des gens qui pensaient dans la vie que vous étiez marié avec Bernard Lecoq, j'imagine.
Très peu.
Non, mais qui est dans la rue, non ?
Très peu, quand même.
65 millions.
Comment votre mari, Bernard Lecoq ? On n'est pas mariés dans la vie. On voit ici tous les deux quand vous étiez venus sur le plateau. Mais ne serait-ce, comme disait Damien, que pour un épisode, non ? C'est pas un truc que vous avez déjà discuté avec Bernard ou les
auteurs ? Non, je l'ai vu hier soir, justement. On est allé voir notre copine, Béatrice Agénin, qui avait sa dernière du spectacle. Mais je crois que c'est pas possible, non. C'était bien que ça finisse. Joël est mort, c'était quand même le grand ordonnateur de cette série, il n'est plus là, voilà. C'est une belle chose.
Vous ne le ferez pas sans lui, en tout cas.
Non.
Merci Annie, on passe à notre dernière rubrique, au suivant. « Ce vendredi, nous recevions sur ce plateau Éric Larchevêque, hein, l'investisseur de Qui veut être mon associé, sur M6. Et alors, il avait une question à vous poser. Il vous connaît, évidemment, il est fan. Et il avait une question très précise à vous poser. Annie, je vous propose de l'écouter. Et on vous y répondait juste après.
Bonjour Annie, donc vous êtes une artiste et la question est la suivante. En tant qu'artiste, on ne sait peut-être pas combien de temps sa carrière va durer. Alors vous durez très longtemps, elle va sans doute très bien continuer, mais est-ce qu'à un moment vous vous êtes posé la question de je dois placer mon argent, je dois avoir des revenus passifs, je dois investir pour le futur parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver?
Une vraie
question d'investisseur, évidemment, on ne sait jamais comment une carrière dure, est-ce que vous avez placé de l'argent? Est-ce que vous êtes...
C'est tout simple, j'aime les maisons. Donc, effectivement, alors c'est arrivé avec les livres. Quand je faisais, parce que j'ai eu la chance de faire quelquefois des gros succès avec un livre, et là, tout à coup, c'est pas comme une pièce où il y a un film et tout. Un livre, quand il se met à marcher sur un an, on a tout à coup là.
Bien sûr. Ouais,
et j'ai tout simplement acheté des petits appartements.
Ouais.
Que d'ailleurs il y en a 3 maintenant. Alors je loge gratuitement la nounou de mes enfants. J'ai 2 copains à qui je fais des loyers, à 50%.
Mais vous avez investi un peu.
Alors ce sont des choses, il faut bien le dire, qui ne rapportent rien du coup, parce que je fais des loyers modérés et tout ça. Ça rend service à des copains, ils sont entretenus parce qu'ils sont occupés. Donc si jamais par malheur il m'arrivait quelque chose ou que j'ai besoin d'arrêter de travailler, je peux toujours en vendre un. Voilà, c'était ça.
Bon,
ma réponse.
Au moins ça fait un investissement. Nous recevons Laurent Mestré, l'aventurier vainqueur de Koh-Lanta, qui va présenter une nouvelle saison des apprentis aventuriers. Vous lui posez des questions à Laurent, il vous écoute.
Alors, vous avez une femme devant vous qui, Dieu sait, n'aime pas du tout les conditions extrêmes, n'aime pas du tout crapahuter nulle part, mais qui s'est inscrite au cercle APS, Apprendre, Préparer, Survivre, cercle de survivalistes. Je vous en bouge un centimètre. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Panne d'électricité géante, trucs qui vous font dessus, voilà. Alors, ça, c'est très intéressant. Il y a des choses très intéressantes. Donc, vous voyez, je ne suis pas complètement quand même dans le côté « je vis dans mon confort » et nanana. Non.
Et votre
apprendre,
question,
préparer, survivre et survivaliste, c'est très bien. Et est-ce que c'est un petit peu scénarisé? Parce que moi, inutile, je ne me retrouverai jamais dans votre truc, là, c'est une horreur pour moi. Mais est-ce que c'est un tout petit peu scénarisé quand même? Est-ce qu'il y a des trucs planqués pour les aider quand même et tout ça? Voilà.
Très bonne question. On a hâte de savoir ça. J'ai peur de sa réponse, mais on va quand même un peu fouiller. On va essayer de trouver la vérité. Merci d'être venu nous voir, Annie, encore. Oui. C'est un plaisir. On vous retrouve sur France 3 à 21h10 dans Mort d'un berger, une fiction, un téléfilm. Ne surtout pas rater. Un rôle fort d'une femme forte.
Le film est très beau, les paysages sont très beaux.
Magnifique. On souhaite une excellente journée. Merci encore.
Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors, je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh.
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.